Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Jean-Jacques Hublin, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes paléo-anthropologue, auteur de nombreux travaux sur l'évolution des Néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes. Vous conduisez vos recherches en Allemagne depuis 2004. Vous avez créé le département d'évolution humaine à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig. Vous enseignez également dans les grandes universités américaines et à Leiden aux Pays-Bas. Mais si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous avez été élu pour 3 ans professeur invité au Collège de France où vous donnez des cours sur la paléo-anthropologie du genre Homo. Mais avant de parler de cette science d'avenir qu'est votre discipline, peut-être pourriez-vous nous dire comment et quand le jeune Jean-Jacques Hublin a eu un jour envie de s'intéresser à la préhistoire.
Lorsque j'avais une dizaine d'années, j'ai été amené par une cousine à Paris pour visiter la galerie de paléontologie du Muséum d'Histoire Naturelle. Et à la sortie de cette visite, elle m'a acheté un petit livre pour enfants qui s'appelait « Les fossiles ». Et donc, le lendemain, j'étais à la recherche de fossiles. J'en ai trouvé, d'ailleurs.
Où est-ce que vous en avez trouvé?
Ah, ben, j'en ai trouvé. Vous savez, des fossiles
à Paris
de mollusques, ça existe sur n'importe quel tas de calcaire en région parisienne. Tout Paris est construit de calcaire lutétien qui est pétri de fossiles. Et donc, assez vite, je me suis intéressé à d'autres aspects de la paléontologie. J'ai aussi la chance, quand j'étais au collège, d'avoir un professeur de sciences naturelles qui a joué un très très grand rôle pour moi et qui a, au-delà d'ailleurs de son service normal d'enseignant, m'a consacré énormément de temps parce qu'il avait détecté chez moi cette passion.
Ah,
et donc
c'est
quelqu'un que je suis allé embêter les samedis, les dimanches pour qu'il m'emmène voir des carrières en région parisienne.
Il devait être ravi. Et il vit encore cet homme?
Il vit encore.
Il doit être très heureux, non?
Je suis toujours en contact avec lui d'ailleurs.
Il doit être très très heureux de son élève.
Il a eu quelques élèves remarquables. Il me parle souvent aussi de notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve, qui a été un de ses élèves. Et je pense que les enseignants, au-delà de l'environnement social, de la famille, des parents, des enseignants peuvent jouer un rôle absolument déterminant dans la destinée individuelle. Là, ça a été le cas. Et donc, en gros, il m'a montré d'une certaine façon que je pouvais en faire mon métier. Et donc, ces années de collège ont été des années formidables de ce point de vue-là, en tout cas. Et donc, dans mon collège, on a créé un club de géologie, j'étais le président, le rédacteur en chef de la revue, je dessinais les illustrations, etc. J'étais probablement le principal lecteur aussi de ce journal.
Et... Donc vous l'écriviez, vous l'illustriez, vous le lisiez.
Oui, mais ça a été le grand début, si je peux dire. Et puis ensuite, en fait, ma trajectoire scientifique, si on peut dire, ça a été une espèce de ligne droite parce que j'ai jamais vraiment douté du fait que je ferais.
Non, c'était vraiment ça.
Je ferais ça et voilà, je suis passé par l'université, par le CNRS, je suis devenu finalement professeur à l'université à Bordeaux. Et puis j'ai eu une carrière, j'allais dire assez classique, de chercheur et d'enseignant chercheur. Et il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, la société Max Planck est venue me chercher.
Ça, c'est formidable.
En disant, voilà, on va créer un département d'évolution humaine au sein d'un institut qui était en cours d'établissement à Leipzig. Je dois dire que je savais pas très bien où était Leipzig à l'époque. J'ai regardé un peu des cartes pour me rendre compte où ça se trouvait.
C'est en Saxe,
oui. Et je parlais pas un mot d'allemand.
Vous parlez l'allemand maintenant ?
Ah ben, il faut bien quand même. Hein,
ouais, non, parce que vous pourriez avoir des échanges en anglais, par exemple.
Ben, c'est-à-dire que l'institut dans lequel je travaille, c'est un institut qui est très, très international, en fait. On a compté plus de 23 nationalités dans
l'institut.
Donc
c'est l'anglais qui domine.
Et c'est vrai que c'est pas le meilleur lieu du monde pour apprendre l'allemand.
Oui, absolument. Leipzig, c'est une ville formidable, en pleine effervescence artistique, et maintenant je vois aussi scientifique, donc formidable.
Leipzig a eu une image assez désastreuse, oui. Surtout au temps de la DDR. Hein. Oui. Et d'ailleurs, les seuls collègues qui étaient un petit peu réservés sur mon départ éventuel vers Leipzig, c'était des collègues allemands hein, d'Allemagne de l'Ouest qui me disaient « Oh là là, c'est terrible ». En fait, je pense qu'ils n'y avaient jamais mis les pieds depuis la chute du mur. Hein. Et donc Leipzig, c'est une ville qui a connu un développement, une effervescence extraordinaire depuis la chute du mur de Berlin. En fait, c'est l'Allemagne d'avant-guerre, d'une certaine façon, qui réémerge, hein, c'est-à-dire les grandes villes de l'Est, comme Berlin ou Dresde ou Leipzig, redeviennent des pôles très importants. Leipzig, dans les années 30, c'était la quatrième ville d'Allemagne. Hein. Donc c'est la ville des banques, hein, le rôle de ville bancaire a été volé par Francfort.
C'est une ville intellectuelle importante, Leipzig.
Alors, ça a été une grande université, une des plus vieilles universités d'Allemagne. Et c'est un mixte assez intéressant, Leipzig. C'est à la fois une ville de foire, depuis le Moyen-Âge, une ville d'affaires.
Une ville riche, alors.
Oui, c'est ça. Ce qu'on dit en Saxe, c'est que Dresde, qui est la capitale de la Saxe, où se tient l'administration, on dit Dresde dépense l'argent que Leipzig gagne. Et donc Leipzig, c'était à la fois une ville d'affaires, une ville de foire, de commerce, et puis une ville intellectuelle avec l'université, et puis une activité, en particulier dans le domaine musical, qui est assez
remarquable, hein.
Incroyable. Oui. Vous savez, c'est la ville où Bach a joué tous les dimanches pendant des années et des années. C'est la ville où est né Wagner. Mmh. C'est la ville où Mendelssohn a été chef d'orchestre. La première symphonie de Mahler a été écrite à un pâté de maison de mon appartement. C'est vraiment unique. Et en fait, la société Max Planck m'a donné la chance, qui est une chance, je pense, unique pour un scientifique, de forger un département, un institut, à l'image de ce qu'on pense qu'il faut faire. Donc là, il ne s'agit pas de rentrer dans le moule d'une institution qui existe. C'est une espèce de carte blanche
à inventer
pour créer
en permanence,
quelque chose.
Oui. Alors, vous êtes aussi depuis 2011 le premier président de la Société européenne pour l'étude de l'évolution humaine. C'est tout à fait nouveau, ça vient d'être fondé. Vous rappelez d'ailleurs dans votre conférence inaugurale que la vision de la préhistoire est un récit basé sur des faits à partir des connaissances les plus actuelles. Alors, quel est aujourd'hui, Jean-Jacques Hublin, le scénario en présence chez les paléo-anthropologues ?
Je pense que le mot de scénario est tout à fait approprié. Dans votre question, il y a plusieurs choses, mais je voudrais reprendre le terme de récit et de scénario. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre à propos de la paléoanthropologie et des sciences qui traitent de l'évolution humaine, c'est que en fait, ces sciences ont une double fonction. Elles ont effectivement un rôle scientifique, hein, donc de développement des connaissances, d'exploration de questions tout à fait rationnelles, mais elles ont aussi un rôle un petit peu, je dirais, mythologique. Toutes les sociétés humaines ont leurs récits
d'origine,
leurs mythes. Alors, généralement, c'est plutôt dans un cadre religieux. Ce qui s'est passé avec les sociétés occidentales au milieu du 19e siècle, c'est qu'elles ont échangé le mythe biblique contre
un mythe scientifique.
Un autre mythe qui est un mythe scientifique. Ouais. Donc, à la fin, disons, à la fin des années 1850-1860, on a l'émergence d'un monde complètement ignoré jusqu'alors. Donc un monde qui immédiatement apparaît comme un peu merveilleux. Hein. Et donc c'est à la fois un sujet scientifique, mais c'est aussi un sujet de rêve, de littérature, un sujet pour les arts plastiques. Si vous allez au musée d'Orsay, vous verrez, il y a des magnifiques...
Et puis un grand objet de fantasme, je suppose.
Voilà. Et donc ce sujet de fantasme, il existe toujours. Et les gens ont des opinions très très fortes hein, à propos de ce que le passé a pu être ou de ce qu'ils aimeraient que le passé ait pu être. Et c'est vrai pour le public, c'est vrai un petit peu pour les spécialistes.
Comment est-ce que vous, Jean-Jacques Hublin, comment est-ce que vous pourriez aujourd'hui, avec toutes les recherches que vous avez contribué à mettre à jour, comment est-ce que vous pourriez raconter cette histoire ?
L'évolution humaine, aujourd'hui, on la voit comme un buisson très compliqué, avec de nombreuses branches qui sont contemporaines les unes des autres, quelque chose qu'on a un peu de mal à imaginer aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut dire que l'espèce a essayé des formes ?
Eh bien, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des humanités dans le passé. Oui. Alors, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour nous à concevoir, parce que on vit dans un monde où il n'y a qu'une seule espèce humaine. Cette espèce humaine, elle est extrêmement homogène. Elle a une origine commune récente. Donc, en gros, c'est un groupe assez homogène qui s'est répandu sur toute la planète il n'y a pas très très longtemps. Mais quand on remonte dans le passé, alors surtout quand on remonte dans le passé lointain, disons au-delà de 2 millions d'années, on se rend compte qu'on a des formes très différentes les unes des autres, qui vivent dans des régions différentes, mais parfois aussi dans les mêmes régions. Et donc chacune de ces formes a une part d'humanité, si je peux dire. Mmh. Et donc ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que il est difficile de tracer une ligne précise, aiguë, entre les hommes et les autres. Mmh. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu difficile à admettre pour nous, parce que depuis des milliers d'années, les hommes se sont évertués à se distinguer du reste du monde vivant. Au 19e siècle encore, hein, on parlait d'un règne animal, d'un règne végétal et d'un règne humain. En gros, l'humanité actuelle, c'est une humanité qui a une origine africaine, qui s'est répandue sur toute la planète, essentiellement au cours, disons, des derniers 50 000 ans, et qui, localement, s'est adaptée à des conditions, surtout des conditions climatiques, à l'altitude, à d'autres aspects qui peuvent être liés aux ressources. Hein, par exemple... notre génome, il a été aussi influencé par notre alimentation. Donc les régions où il y avait de l'agriculture ont vu apparaître des mutations qui ne sont pas apparues dans des régions où on ne consomme pas de produits laitiers ou de céréales. Et donc voilà, mais toutes ces modifications qui sont intervenues au cours des derniers millénaires sont des modifications relativement cosmétiques, on va dire.
Oui.
Alors quand on parle de l'homme de Néandertal, ou quand on parle des Denisoviens ou des Homo erectus, ou plus avant dans le temps, des premiers représentants du genre Homo, là, on n'est pas dans le cosmétique. Hein. On a des différences qui sont des différences beaucoup plus importantes. Alors, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est qu'aujourd'hui, il y a un débat qui s'est développé avec une espèce de tentative d'exporter dans le passé, si je peux dire, une vision unitaire de l'humanité qui est complètement fondée pour l'humanité actuelle.
Est-ce que ça se passe pas comme ça dans toutes les disciplines, enfin dans l'histoire la plus classique d'ailleurs? On a toujours affaire, quand on fait de l'histoire, donc de la préhistoire également, à de l'anachronisme.
C'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est que chaque époque bâtit une vision du monde qui est en grande partie influencée par son idéologie, ses valeurs.
Et l'état de son savoir.
Et l'état de son savoir, mais en quelque sorte, on forme le savoir un petit peu sur les valeurs du moment.
Vous parlez dans votre cours de 2014 de l'émergence du genre homo. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu ressaisir pour nous ce que vous avez dit dans ce cours?
Alors on a, au cours des derniers millions d'années, au sein d'un groupe de primates de grande taille qui vit en Afrique, on va avoir l'émergence d'une lignée. Et donc on a, disons, au milieu des grands singes africains, gorilles, chimpanzés, bonobos, etc., on va avoir une branche qui est un autre grand singe, si on peut dire les choses comme ça. Et cet autre grand singe, au début, va se distinguer assez peu, en fait, de ces autres formes africaines. Mais il va quand même développer des caractères assez particuliers. Il va être bipède. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il va s'adapter à des milieux de plus en plus ouverts, c'est-à-dire il va se libérer en quelque sorte des arbres. Et puis on a des choses aussi qui se passent probablement dans le domaine, mais ça c'est moins connu, mais dans le domaine de l'organisation sociale, si on peut dire, de ces grands singes. Et on le voit par exemple avec la réduction de la taille des canines. Chez ces formes très anciennes. Alors, je vous parle de formes qui ont 5 millions d'années. Hein. Et donc, on pense que cette réduction de la taille des canines, c'est quelque chose qui est probablement lié à l'interaction entre mâles au sein des groupes, entre mâles et femelles, etc. Alors, je serais bien en peine de vous dire exactement ce qui se passe, mais il se passe quelque chose de ce côté-là. Ouais. Et donc, disons, cette lignée-là, elle va aboutir à l'apparition des Australopithèques. Lucie, tout le monde connaît la petite Lucie, des savanes éthiopiennes. Et donc, ces Australopithèques, en gros, alors c'est peut-être un peu brutal de dire ça, mais ce sont des espèces de grands singes bipèdes qui ont encore un cerveau qui est relativement petit, hein, qui est à peine différent de celui des chimpanzés ou des gorilles. Ils ont des caractères un petit peu bizarres, donc ils ont ces canines réduites, ils sont bipèdes, et puis ils vont s'orienter vers un mode d'exploitation du milieu qui est un petit peu différent de ce qui existe chez les autres grands singes. En particulier, certainement de façon assez ancienne, avec une tendance à la carnivorie. Là, c'est un néologisme qui est un petit peu malencontreux, mais disons, ils vont avoir tendance à développer quelque chose qui existe d'ailleurs chez les chimpanzés. Hein. Les chimpanzés, occasionnellement, chassent des petits animaux. Fabrique des outils, et donc ça c'est quelque chose qui va être si je peux dire la niche écologique de ces hominines, et quelque chose donc qui est relativement ancien. À partir d'environ 3 millions d'années avant le présent, on assiste en Afrique à des changements environnementaux qui sont assez important pour l'évolution des hominines, et qui dans le fond crée des conditions qui obligent ces hominines à amplifier des caractères qu'ils ont déjà.
Est-ce qu'on a une idée de ce que sont ces accidents environnementaux?
Alors la Terre depuis plusieurs millions d'années a tendance à devenir de plus en plus froide, enfin la Terre, le climat, hein. A tendance à devenir de plus en plus froid, et puis avec une montée de l'aridité, en particulier en Afrique, mais pas seulement. Et donc, Tout ça, évidemment, ça a des effets sur les paysages, sur les faunes, et ça va avoir un effet sur ces hominines. Et à partir de cette époque-là, on va avoir une espèce de deux voies qui vont se développer. Une voie qui est celle qui est suivie par des australopithèques tardifs, il y en a qui ont existé jusque vers 1,5 million d'années, peut-être un peu moins même, qui eux vont amplifier plutôt la consommation de végétaux coriaces, hein. Donc sont les paranthropes, ce qu'on appelle les australopithèques robustes, avec eux. Alors on les appelle robustes, pas tellement parce qu'ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus gros que les autres, mais surtout parce qu'ils ont un système masticateur absolument extraordinaire. Et puis alors, une autre voie qui va être suivie, eh bien, c'est celle d'amplifier la consommation de viande, de graisse. Et donc c'est cette voie-là que le genre homo a suivi. Et donc... le fait d'avoir accès à une alimentation qui est plus riche en énergie va offrir une possibilité de développement du cerveau qui n'existe pas si on se cantonne dans des régimes pauvres en énergie, si je peux dire. Et donc on va avoir une combinaison, une espèce de mosaïque de caractères qui va se mettre en place avec un accroissement de la prédation, le développement d'outillages, et donc ces outillages en pierre qui initialement servent justement à exploiter des carcasses d'animaux, peut-être à exploiter des charognes laissées par des carnivores, à chasser, à briser les os, à extraire la moelle, cette panoplie-là va évidemment créer une espèce de pression de sélection pour un développement technologique, très très fruste. Voilà, ouais. En même temps, cette alimentation...
Donc il y a un va-et-vient permanent entre la fabrication de l'environnement et l'environnement qui fabrique l'homme, d'une certaine manière.
C'est-à-dire qu'il y a une pression de l'environnement sur toutes les espèces qui les force à s'adapter aux conditions dans lesquelles elles vivent. Et puis alors chez l'homme, ce qui est tout à fait particulier, c'est que il y a une espèce d'interaction entre la biologie... la culture, alors la culture au sens large, c'est-à-dire technique, l'organisation sociale. Il faut quand même dire une chose à propos de cette histoire de cerveau et de technologie et de complexité sociale, c'est que le cerveau, qui est un organe absolument merveilleux à des tas de points de vue, c'est quand même un organe un petit peu problématique. Si je peux dire, c'est une forme d'aberration, en fait, quand on regarde l'évolution du cerveau chez l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est un organe qui est extrêmement gourmand en énergie. Évidemment, il donne un avantage formidable à ses représentants du genre homo, même très anciens, parce que il développe des techniques de plus en plus complexes. Il faut pas oublier aussi la complexité comportementale, la complexité dans la relation avec les autres. Il va créer en lui-même une espèce de pression de sélection sur tout un tas d'aspects de la biologie et du comportement de ces représentants du genre homo qu'on ne voit pas dans les autres lignées. Et en particulier, on met l'accent souvent justement sur l'aspect technologique de l'homme. Et c'est vrai que le fait d'avoir des outils en pierre fruste, mais de plus en plus compliqués, le fait de pouvoir acquérir des proies, c'est quelque chose qui permet ce que j'appelle une externalisation de certaines fonctions biologiques. En gros, l'histoire de l'homme, c'est épargner de l'énergie sur certains systèmes pour la réinvestir dans ce cerveau qui grossit de plus en plus. Et donc consommer de la graisse, consommer de la viande, être capable de la découper avec des outils, ça permet d'avoir un système masticateur beaucoup plus réduit dans
Absolument,
son développement.
Oui.
Ça permet de consommer moins d'énergie pour la mastication, la digestion. Pourquoi ? Parce qu'on va être capable de déchiqueter cette viande, de l'écraser, de la broyer. À un certain moment, on va commencer à la cuire.
Ah oui.
Et donc, il y a toute une histoire de la cuisine, si je peux dire. Qui est lié, enfin en tout cas de la préparation des aliments, qui est lié à ce besoin d'économiser de l'énergie physique pour la réinvestir dans le cerveau. Mais alors il y a d'autres façons de résoudre ce dilemme du cerveau qui consomme beaucoup d'énergie. Ça, on en parle beaucoup moins, et c'est quelque chose qui est lié à notre mode de croissance, à la façon dont nous produisons nos enfants et à la façon dont nous les élevons.
Racontez-nous ça.
Bien, c'est-à-dire que
les hommes,
du point de vue de la reproduction et de la croissance des enfants, sont tout à fait bizarres. Hein.
On est lent en tout cas. On est la plus lente des espèces.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a.
Et c'est un avantage.
Ben, c'est-à-dire que, vous savez, c'est comme de rembourser un prêt immobilier. Hein. Si vous le remboursez sur 30 ans, vous pouvez vous acheter une maison plus grande que si vous remboursez en 10 ans. Et donc, c'est un peu ce qu'on a fait avec notre cerveau.
J'ai toujours pensé qu'on était en retard par rapport aux autres espèces à cause, justement, de ce petit homme qui était moins indépendant vite que le petit veau, par exemple, ou le petit chaton, enfin...
La raison de cette lenteur du développement... Elle est en partie liée au coût de la production d'un cerveau de très grande taille.
Ah, c'est génial.
Et donc, il y a des choses tout à fait particulières chez l'homme. Par exemple, l'homme qui est le primate qui a le plus grand cerveau adulte, et de loin, c'est celui qui, à la naissance, a proportionnellement le plus petit cerveau par rapport à la taille adulte. Pourquoi ? Eh bien, parce que, à cause justement de cette consommation extravagante d'énergie par le cerveau, eh bien, en gros, une femme qui porte un enfant dans son sein, eh bien, ne pourrait pas se permettre, sur le plan physiologique, d'avoir un enfant qui développerait un cerveau qui ferait, 70% de la taille adulte,
évidemment,
comme chez un macaque.
Mmh.
Et donc, elle est obligée, si je peux dire, de le mettre au monde avant que son cerveau ne devienne trop gros. Je parle même pas des problèmes obstétricaux qui sont liés à la bipédie, à la taille du bassin, etc. Mais donc, voilà, on met au monde des enfants avec des cerveaux qui sont relativement petits par rapport à la taille adulte. Et ce cerveau, il va mettre plus longtemps que chez les autres primates à grandir jusqu'à la taille adulte. Et puis surtout, sa maturation, son câblage intérieur va se mettre en place sur une très très grande période de temps. On sait que jusqu'après l'adolescence, jusque chez des jeunes adultes, le cerveau continue à être remanié. Donc on a cette situation tout à fait particulière qui est que notre ordinateur intérieur, il est recablé constamment alors que nous interagissons avec le monde extérieur, alors que nous apprenons à parler, alors que nous sommes soumis à tout un tas de stimulations. Et on pense qu'une grande partie de la complexité du cerveau humain et de ses capacités cognitives sont liées à cette interaction entre le cerveau en développement et puis l'environnement. Mais il faut bien comprendre que au départ, c'est encore une fois une affaire d'énergie. Alors il y a autre chose dans le développement des enfants humains qui est tout à fait curieux, c'est que une femelle chimpanzé, quand elle a un petit, elle va s'occuper exclusivement de ce petit, elle ne va pas en avoir d'autres tant que celui-là ne sera pas indépendant, et elle ne laissera pas les autres membres du groupe le toucher, s'en approcher. Le sevrage chez les grands singes, c'est un sevrage qui intervient très tard par rapport à l'homme. Chez un chimpanzé, c'est autour de 4 ans. Chez un orang-outan, c'est autour de 6 ans. Quand ces petits chimpanzés, petits orang-outans atteignent cet âge-là, eh bien, ils peuvent commencer à se nourrir par eux-mêmes au sein du groupe. Ils deviennent relativement indépendants, évidemment pas complètement, mais relativement indépendants. Et puis, la femelle chimpanzé, orang-outan, va pouvoir, donc au bout de 4-5 ans, ou 6-7 ans,
avoir un autre.
Alors, les hommes, eux, ont inventé, si je peux dire, quelque chose qui
est extraordinaire. La simultanéité.
Voilà. C'est-à-dire que les hommes, eux, alors, c'est pas une décision, évidemment, volontaire, c'est l'évolution qui les a menés dans cette direction-là. La sélection essentiellement. Ce qui se passe chez les hommes, c'est que le sevrage est très précoce. Dans toutes les sociétés humaines, enfin, la plupart des sociétés traditionnelles, le sevrage, alors c'est un processus qui prend un peu de temps.
Au plus tard, c'est 2 ans, en fait.
Ça commence un peu avant 1 an, ça commence autour de 6 mois, on commence un peu à essayer.
Le plus tard possible, c'est 2 ans.
Et puis, disons, dans la plupart des sociétés traditionnelles, à 2 ans et demi, c'est une affaire qui est réglée, quoi. Et alors ça, pourquoi ça se met en place? Eh bien, parce que, c'est toujours pareil, parce que à cet âge-là, ce cerveau qui est en croissance, il demande beaucoup d'énergie. Et donc, les femmes humaines, à la différence des chimpanzés, elles aiment beaucoup que les autres adultes du groupe s'occupent de leur bébé. Et en particulier, le fait d'avoir ce sevrage assez précoce, ça permet de passer une partie du fardeau énergétique du développement de cet enfant et de son gros cerveau aux autres.
Bien sûr.
Et donc le père, les grands-parents, tous les adultes en fait du groupe vont participer de façon importante à cet approvisionnement énergétique, si je peux dire, de l'enfant qui se développe, et la mère va pouvoir en avoir un autre. Et donc, une des grandes différences avec les grands singes, c'est qu'on a des fratries comme ça, de petits, d'âges différents, qui sont élevés par des adultes. Et ça, ça a des implications. Alors, j'ai parlé des implications énergétiques, mais il y a des implications sociales et même psychologiques qui sont tout à fait uniques aux hommes. En gros, le fait qu'on soit élevé de cette façon-là, ça entraîne le fait que d'abord, au moment où on est sevré, on n'est pas du tout indépendant, donc on continue à être très dépendant des adultes pendant très longtemps. Les enfants, ils apprennent très tôt, et c'est quelque chose qui est nécessaire à leur survie, à maintenir l'intérêt des adultes pour eux. C'est-à-dire que quand la mère a un autre enfant, il faut pas qu'elle oublie celui qu'elle a eu avant. Et puis, les enfants eux-mêmes, ils interagissent entre eux au sein des fratries. Ils sont bien obligés de s'entendre. Et ça, c'est un modèle qui est tout à fait particulier et qui probablement explique une partie de nos capacités relationnelles absolument extraordinaires et à cette capacité des hommes à créer du lien social très tôt. Et donc, vous voyez que on peut visiter un certain nombre de caractères humains du point de vue de ces problèmes énergétiques, de ces problèmes en particulier de développement du cerveau, mais tout en gardant en tête qu'il y a un feedback constant entre le développement, enfin l'évolution biologique et l'évolution sociale, culturelle. C'est-à-dire qu'en gros, pour pouvoir réaliser ce modèle biologique, ce développement très long, ce sevrage précoce, ce type de croissance du cerveau tout à fait particulier, eh bien, il faut en même temps avoir une technologie, une organisation sociale qui fasse que, économiquement, le groupe puisse se permettre ça. Hein. Mais en même temps, le fait d'avoir ce développement très lent, cette maturation qui se prolonge au-delà de l'adolescence, ce modèle particulier d'interaction entre adultes et petits, en soi, c'est quelque chose qui complexifie nos capacités cognitives et qui vont permettre de développer encore plus de technologies, encore plus de complexité sociale, encore plus de cohésion, d'interaction, de collaboration entre les individus des groupes. L'évolution, c'est surtout une affaire d'extinction.
Oui, d'accord.
Et donc, faut bien se mettre ça dans la tête une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que il a existé énormément d'espèces dans le passé et elles ont disparu.
Ça marche ou ça marche pas, quoi, finalement.
Ça marche et ça marche pas, mais généralement, ça ne marche pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, par exemple, dans la nature actuelle, il y a très très peu de formes vivantes qui existaient il y a 100 millions d'années ou 200 millions d'années. Il y a quelques-unes, mais c'est très très rare.
Oui.
Donc l'évolution, ça marche surtout par extinction. Donc on produit des modèles différents, et puis il y a une espèce de tri qui s'opère, il y en a beaucoup qui disparaissent, il y en a quelques-uns qui survivent. Alors au sein de l'évolution des hominines, eh bien on a eu apparemment au moins deux fois une espèce de tri qui a abouti au succès d'une seule forme. Alors ça s'est produit déjà, disons, autour d'un million et demi d'années, on va dire, avec une forme qu'on appelle Homo erectus. Et cet Homo erectus, c'est la forme qui est sortie d'Afrique et qui a colonisé déjà l'Eurasie il y a un peu moins de 2 millions d'années, probablement. Et donc cette forme-là, c'est une forme qui, à bien des égards, a réalisé tout un tas d'adaptations qu'on considère comme des adaptations humaines fondamentales, alors surtout du côté technique, surtout du côté de la prédation, de la consommation de viande, etc. Mais en même temps, ils ont encore un cerveau qui est largement plus petit que celui d'un cerveau humain actuel. Et on pense aussi que sur le plan du développement, de la vitesse de développement, toutes ces histoires de sevrage, etc., sont des formes qui ont un modèle différent d'une autre, un modèle qui est peut-être plus proche de ce qu'on connaît justement chez les grands singes.
Oui.
Alors quand même, c'est un modèle qui a très très bien marché, et qui, peu de temps après cette première sortie d'Afrique, dans le fond, va remplacer toutes les autres formes d'hominines qu'on connaissait vers 2 millions d'années. Donc c'est la fin, par exemple, en Afrique, de ces australopithèques robustes qui avaient survécu. C'est probablement aussi la fin d'autres formes du genre Homo lui-même.
Hein. Oui, c'est ça.
Et donc on a ce premier grand remplacement, si je peux dire. Et en même temps, cette colonisation d'une grande partie de la planète.
En fait, la nature sélectionne beaucoup.
Ah oui, oui, ça, c'est ce qui se passe depuis des millions d'années. Et alors, ces Homo erectus qui ont colonisé l'Asie, l'Europe, qui existent partout en Afrique, eh bien, à leur tour, ils vont se diversifier. Et cette fois-ci, la diversification va se faire non pas par l'écologie, parce que des formes vont être adaptées par exemple à des régimes alimentaires différents. Ce à quoi on avait assisté en Afrique, hein, avec nos paranthropes, nos premiers homos, etc. Là, ça va être une diversification qui est créée par la distance et par la séparation de ces groupes. Puisque maintenant, ils peuplent une grande partie de la planète Terre. Et donc, entre l'Extrême-Orient asiatique, l'Europe, l'Afrique, eh bien, on va avoir des échanges géniques qui vont se réduire. Il y a de larges zones de ces continents qui ne sont pas peuplées de façon permanente. Et donc, on va assister, disons, à partir d'un million d'années, et puis surtout, disons, de ce qu'on appelle le Pléistocène moyen, hein, c'était une période qui va entre 800 000 ans et 125 000 ans, on va voir apparaître dans différentes régions du monde des descendants de toutes ces formes-là. Alors l'histoire est peut-être plus compliquée que ça, parce qu'on pense qu'il y a peut-être une autre sortie d'Afrique intermédiaire, mais l'important, c'est surtout qu'on voit apparaître des formes assez différentes. Alors, les ancêtres des Néandertaliens et les Néandertaliens en Europe, ce qu'on appelle maintenant les Denisoviens en Asie.
Ah oui, voilà, alors je voulais vous demander, parce que vous avez parlé des Denisoviens dans votre cours 2015.
Oui.
Qui sont les Denisoviens, pardon?
Alors, je reprends les Néandertaliens en Europe,
oui.
des Denisoviens en Asie, des Homo erectus probablement qui survivent encore dans certaines autres parties de l'Asie, et puis en Afrique, ce qui va être, dans le fond, la racine de notre propre espèce
qui va se mêler avec ces autres hominines, qui vont finalement faire des enfants, et c'est ça qui va fabriquer l'espèce humaine qu'on connaît.
Alors, c'est diverses formes, hein, néandertaliens, dénisoviens, ancêtres de l'homme moderne en Afrique, vont évoluer de façon relativement indépendante les unes des autres. Hein, c'est un espèce de nouvel arbre qui se crée avec des branches séparées, avec une divergence morphologique qui est assez importante. Quand on compare, par exemple, les Néandertaliens aux ancêtres des hommes modernes en Afrique, et puis surtout aux hommes modernes eux-mêmes, on est frappé quand même de voir comment, en assez peu de temps, un demi-million d'années, quelque chose comme ça, on a abouti quand même à des différences sur le plan de l'anatomie.
Quel genre de différences ?
Alors, ce sont des différences qui sont
La taille, vous voulez dire, par exemple ?
Non, il y a des détails. Alors, déjà, il y a des différences dans l'anatomie en général, dans les proportions corporelles, dans la forme de la boîte crânienne, de la face, de la denture, qui sont tout à fait reconnaissables. Mais parfois, des petits détails anatomiques qui peuvent paraître complètement secondaires nous montrent à quel point il y a eu cette divergence. Hein. Avec un de mes jeunes collègues de Leipzig, en ce moment, on est en train de travailler sur certains aspects de l'oreille interne, de l'oreille moyenne.
Ah, oui.
Donc ces petits ossicules de l'oreille moyenne, par exemple, entre un néandertalien et un homme moderne, sont très très différents. Et donc ça, c'est assez frappant, parce que bon, il y a une variété chez l'homme actuel, bien sûr, mais la variation est relativement faible. Donc on a cette diversification de tous ces hommes. Alors les Denisoviens, je vais en dire un mot quand même, parce que c'est un groupe qu'on connaissait pas il y a encore 5-6 ans.
Comment on les a découverts ?
Alors on les a découverts surtout parce qu'aujourd'hui on est capable de faire de la paléogénétique, d'extraire de l'ADN de fossiles. Et dans le fond, on a découvert quelque chose qui n'était ni un homme moderne ou ses ancêtres, ni un néandertalien, mais quelque chose d'autre. Et cette séquence génétique, on l'explique par le fait qu'on a probablement là ce que les paléontologues appellent dans leur jargon un groupe frère, c'est-à-dire le groupe frère des Néandertaliens. C'est un espèce de pendant asiatique des Néandertaliens qui ont évolué de façon différente, encore une fois à cause de la distance, de la séparation. Alors, quand je dis qu'on les a découverts il y a 5 ans, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a découvert leur génome. On a identifié, on a interprété ce génome à partir de cette époque-là. Maintenant, moi, je suis persuadé qu'on a beaucoup de Denisoviens dans nos collections. On ne sait pas les appeler Denisoviens parce que on n'a pas extrait d'ADN de ces fossiles, mais je pense qu'en particulier, une grande partie des fossiles qu'on a découverts en Chine et qui datent entre, disons, 300 000 ans et 80 000 ans, sont des Denisoviens.
Laboratoire, d'ailleurs, Jean-Jacques Hublin, qui a découvert que chez l'homme moderne, il y a un petit pourcentage d'hommes de Néandertal qui restent. Est-ce qu'on peut aussi découvrir qu'il y a aussi, par exemple, des Denisoviens est-ce que vous pensez que il y a encore cette composante archaïque qui est présente dans l'homme actuel ?
La paléogénétique, c'est-à-dire la possibilité d'extraire de l'ADN de fossiles, et pas seulement des tout petits bouts d'ADN qu'on avait un peu de mal à interpréter, mais vraiment à produire des génomes complets avec une très très haute résolution, ce qui a été fait depuis quelques années, c'est quelque chose qui a complètement révolutionné le domaine. Hein, parce qu'on a maintenant des moyens de vérifier des hypothèses qui étaient assez spéculatives jusqu'à présent. Alors ce que l'on sait de cette évolution de ces formes donc qui ont existé en Afrique, en Europe, en Asie, disons au cours du dernier demi-million d'années, c'est que il va se passer en Afrique quelque chose d'assez particulier qui est d'ailleurs assez mal compris pour l'instant parce qu'on a peu d'informations sur l'Afrique, mais on va avoir l'émergence de notre espèce. Hein. Et le mécanisme d'apparition de notre espèce à l'intérieur de l'Afrique, c'est quelque chose qui est encore devant nous, si je peux dire, et qui reste à élucider. Toujours est-il que cette espèce...
On est sûr que c'est l'Afrique, donc. Ça peut pas être l'Asie, par exemple.
Toutes les données génétiques que nous avons et une grande partie des données paléontologiques confirment cette origine africaine des hommes modernes. La variation génétique des hommes actuels... et elle est bien plus grande en Afrique que dans le reste du monde. Et quand on regarde quand on essaie de reconstruire des arbres de lignées d'ADN, l'ADN mitochondrial, c'est un ADN qui se transmet uniquement par les femmes, ou quand on construit des arbres à partir du chromosome Y. Je prends ces exemples-là parce que c'est des arbres qui sont plus faciles à construire que les arbres qui prennent en compte tout le génome. Eh bien, en gros, l'image qu'on a, c'est un arbre qui s'enracine en Afrique. Et puis, il y a une branche qui passe au-dessus du mur dans le jardin du voisin. Et le jardin du voisin, c'est le reste du monde. Et donc, tout ce qu'on trouve à l'extérieur de l'Afrique s'enracine en Afrique. Et l'Afrique a gardé une grande partie des branches encore à l'intérieur du jardin. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on voit cette évolution humaine récente. Et donc, ces hommes, ils vont se répandre en dehors d'Afrique. Probablement parce que un petit peu à la façon des Homo erectus plus d'un million d'années avant, ou 2 millions d'années avant même, je devrais dire, eh bien, ils ont probablement réalisé un modèle, si je peux dire, qui est un modèle qui est extrêmement, performant, qui à la fois sur le plan du mode d'exploitation de l'environnement, probablement aussi sur le type d'organisation sociale de ces groupes-là, fait que ils vont avoir une capacité
à voyager,
à s'adapter,
à se déplacer.
À voyager, non. Je ne pense pas que ces gens-là voyageaient. Hein. Je pense qu'ils se sont...
Comment ils se sont retrouvés en Europe, alors ?
Ah bah, ils se sont... Non, mais il faut pas imaginer cette expansion des hommes modernes comme une espèce de grande migration avec des gens qui voyagent le baluchon sur le dos. Hein.
Non, bien sûr.
simplement, un groupe qui est installé dans une région particulière, dans une zone...
Se déplace,
il suffit qu'à la génération suivante, il y ait les descendants de ce groupe qui s'installent à quelques kilomètres de là, 50 kilomètres, pour que en très peu de temps, vous savez, c'est très facile, faites le compte, comptez une génération, 25 ans, 50 kilomètres, vous allez voir qu'en 2 ou 3 000 ans, vous allez très très loin. Hein. Donc, ces gens-là ont une capacité à exploiter l'environnement, et probablement un succès reproductif qui est assez assez élevé. Et donc, ils vont se disperser, se diffuser hors d'Afrique, probablement à partir de petits groupes d'ailleurs d'hommes, et entre, disons, 50 000 ans et 40 000 ans, eh bien, remplacer tous les autres groupes humains archaïques qui existent en Eurasie. Alors, dans certaines régions, ça s'est produit assez rapidement. Dans d'autres, ça a duré un peu plus longtemps. Mais la fin de l'histoire, c'est que quand même, aujourd'hui, il n'y a plus que des hommes modernes. Alors, ce que la paléogénétique nous a apporté, c'est la résolution d'une question qui était débattue depuis très très longtemps par les paléontologues, c'est-à-dire la question de savoir si, dans le fond, au cours de ce remplacement, bah, il y avait eu un mélange entre des populations archaïques locales, comme les Néandertaliens, par exemple, et puis ces espèces d'envahisseurs modernes qui arrivent d'Afrique. Alors, en fait, la réponse est une réponse qui est en demi-teinte, parce que la réponse que la paléogénétique nous a apportée, c'est que oui, il y a eu une petite introgression de matériel génétique néandertalien chez les hommes dans ces populations modernes hors d'Afrique. Mais en même temps, ce que la paléogénétique aussi nous a montré, c'est que ce phénomène, c'est un phénomène assez cosmétique quand même. C'est-à-dire que ça concerne chez vous et moi à peu près 2% de notre ADN. Alors, pour certains, 2% c'est formidable, c'est énorme. Pour d'autres, c'est très peu. Donc là, il y a un aspect d'appréciation. Je ne sais pas, quand vous buvez votre café le matin, si vous mettez 2% de lait à l'intérieur de votre tasse de café, est-ce que ça devient du café au lait ou est-ce que ça reste du café ? Je ne sais pas, c'est à vous de décider. Mais donc on a cette toute petite introgression. Et d'ailleurs, ce que montre aussi la paléogénétique, c'est que ce phénomène d'introgression, c'est un phénomène trivial en fait. C'est quelque chose qui s'est produit pratiquement constamment entre toutes ces lignées humaines. Hein. Et pas seulement entre néandertaliens et hommes modernes, mais entre dénisoviens et hommes modernes, entre néandertaliens et dénisoviens, entre Homo erectus et dénisoviens, etc., etc. Et donc, à chaque fois qu'on a le développement d'une nouvelle branche, le déplacement d'une branche d'une région dans une autre, etc., il y a presque toujours ce petit mélange. Alors, ce qui est frappant, c'est que ça n'est jamais... Enfin, en tout cas pour l'instant, hein, on n'a jamais trouvé de cas où c'est un mélange important, où c'est un mélange, je sais pas, 50%, 50%, ou 30%, 70%. Non, on parle toujours de 2, 3%, 1,5%, 0,5%, c'est de cet ordre-là. Ça pose évidemment la question du statut de toutes ces formes. Et là, il y a une espèce de guerre, de débat furieux, presque théologique, pour savoir s'il faut appeler tout ça des espèces, pas des espèces, etc. Les paléontologues ont tendance à créer beaucoup d'espèces, parce que eux, ils voient surtout la morphologie, et donc dès qu'ils arrivent à reconnaître une entité sur des caractères morphologiques, ils disent, ben voilà, on a une espèce paléontologique, on va lui donner un nom. Donc on en a créé énormément. Les généticiens, eux, évidemment, nous disent, mais non, mais tous ces gens-là, ils sont interféconds, donc c'est la même espèce. C'est la même espèce, mais en même temps, ils sont quand même très différents. Donc la réponse, c'est que la notion d'espèce, c'est peut-être une notion beaucoup plus compliquée que ce qu'on a bien voulu croire jusqu'à présent.
Si je vous comprends bien, Jean-Jacques Hublin, l'origine de l'homme, c'est une béance, évidemment, une béance et un mixage, un mélange.
C'est un petit mélange.
Un petit. Pourquoi mais petit?
C'est-à-dire que,
ce que vous êtes en train de nous décrire.
C'est quand même essentiellement un remplacement. C'est-à-dire que, évidemment, là je rame un petit peu à contre-courant parce que c'est une idée qui enthousiasme les médias, le public, l'idée que l'humanité actuelle, c'est un espèce de grand mélange de néandertaliens, d'hommes modernes, de dénisoviens,
oui, c'est vrai,
etc.
C'est
une idée qui est assez populaire, je veux dire. Oui. C'est pas une idée exacte.
Juste.
C'est pas une idée juste. En gros, la vraie histoire, si je peux dire, c'est des hommes modernes qui sortent d'Afrique et qui remplacent tous les autres et qui, au cours de ce remplacement, incorporent un petit peu du génome des populations locales, mais un petit peu seulement.
2% par exemple.
Oui, 2%. Et vous savez, quand on dit 2%, il faut bien comprendre que notre génome, c'est pas une espèce de bande magnétique où il y a toute l'information pour coder les protéines, former, programmer notre développement, etc. Et que ça n'est que ça. Il y a énormément de choses dans le génome dont on ne sait pas très bien à quoi ça sert, et même dont on pense que une partie ne sert à rien. Et donc...
Jusqu'à nouvel ordre.
Voilà. Quand on dit 2% du génome... On ne sait pas très bien quel 2%. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a essayé d'identifier dans ces 2% des gènes qui codent des protéines que l'on connaît, eh ben, pour l'instant, on a un peu de mal à en trouver de ces gènes qui codent des protéines néandertaliennes, si je peux dire, dans les populations modernes. Vous savez, pour vous donner un ordre d'idée, hein, on a, chez l'homme, on a identifié à peu près quelque chose autour de 20 000 gènes codants. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire 20 000 recettes de cuisine qui sont dans notre ADN pour fabriquer toutes les protéines, hein, qui nous font fonctionner. Pour l'instant, on connaît à peu près une douzaine sur 20 000, hein, d'allèles de gènes dont on pense qu'ils sont hérités de populations archaïques. Et donc, on peut opposer ce pourcentage au fameux 2%. D'ailleurs, on peut dire, on a peut-être une douzaine de gènes qui codent des protéines chez les hommes modernes qui vivent hors d'Afrique, qui sont hérités des populations archaïques. Alors, vous savez, 12 sur 20 000, ça fait pas beaucoup.
En effet.
Donc, il faut pas, je pense que ces données paléogénétiques sont très intéressantes parce qu'elles nous montrent ce qui s'est passé, mais il faut pas survendre le mélange non plus.
Alors, pour terminer, Jean-Jacques Hublin, si vous permettez, votre cours 2014 s'intitule « La première sortie d'Afrique ». Ensuite, vous avez fait cours en 2015 sur Néandertal et Denisovien. Et donc, la troisième année de cours, vous préparez quel genre de recherche sur quoi est-ce que vous allez travailler? Quelles sont vos intentions de recherche et de travail, et, au fond, et d'enseignement au Collège de France?
Ah bien, l'année prochaine, c'est extrêmement simple. Après avoir exploré cette année donc le monde des Néandertaliens et des Denisoviens, donc ce monde eurasiatique où on a ces formes tout à fait fascinantes qui sont très proches de nous, hein, à bien des égards. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que toutes ces formes, elles ont indépendamment réalisé des très grands cerveaux, encore beaucoup plus grands que ce qu'on avait chez les Homo erectus, indépendamment, j'insiste là-dessus, hein, c'est-à-dire que ça explique d'ailleurs des différences qu'on observe entre toutes ces formes, et donc elles ont une grande complexité comportementale, en même temps des différences biologiques, sans doute des différences comportementales. Et donc l'année prochaine, eh bien, je vais parler justement du succès, si je peux dire, de la forme africaine, qui est à l'origine de l'humanité actuelle. Et donc, on va, l'année prochaine, essayer de voir quelle est l'histoire de cette dernière sortie d'Afrique et de ce remplacement de ces populations archaïques avec ce petit mélange qui s'est produit à ce moment-là. Et donc, c'est un sujet tout à fait passionnant parce que c'est un sujet sur lequel... On a pu apporter tellement d'informations au cours, disons, des 5-10 dernières années que, en gros, tout ce qu'on racontait quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune chercheur, a été obsolète, totalement remis en cause et on voit les choses de façon assez différente. Surtout, on a des moyens, en particulier ce que les Anglais, les Américains appellent « archaeological sciences hein, », et qu'on appelle, les Allemands et les Français appellent ça « archéométrie », c'est de la physique et de la chimie appliquée à toutes ces questions-là, nous livrent des informations absolument, extraordinaires, inattendues, des choses dont on n'aurait pas rêvé il y a 10 ou 20 ans, sur la biologie, sur le comportement de toutes ces formes anciennes. Donc étudier les fossiles, étudier l'évolution humaine, c'est pas juste regarder des creux et des bosses sur des vieux crânes, c'est pas seulement regarder la longueur de pointe en silex, c'est aussi avoir accès à des molécules, à du collagène, à des isotopes, à de l'ADN, c'est reconstituer les régimes alimentaires, c'est analyser la mobilité de ces hommes sur le territoire avec des moyens précis et quantifiables. Donc c'est un domaine qui, du point de vue méthodologique, est en pleine révolution.
C'est passionnant. Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin. Merci infiniment.
Merci à vous.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Aujourd'hui, entretien avec Jean-Jacques Hublin, paléo-anthropologue. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain pour écouter la conférence inaugurale de Jean-Jacques Hublin, paléo-anthropologue. Belle journée à tous à l'écoute de France Culture.